BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Clauzier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot le Mag. Cette semaine, on va parler de passion et de désir. Comment faire en sorte que les entreprises attirent à nouveau les talents externes, mais aussi leurs talents internes. Il faut revenir au bureau. C'est la question qu'on va poser à Eric Albert. Il est cofondateur de YouSide et il est aussi psychiatre. Et puis, on parlera aussi réaménagement des locaux. Quel sujet important avec le DG France de Steelcase. C'est Mickaël Locaux qui sera avec nous dans un instant. Et puis, on parlera mobilité. Mais mobilité pour tous avec une entreprise qui a inventé un truc révolutionnaire, une patinette que vous accrochez au fauteuil roulant. Et ça aussi, ça peut intéresser les entreprises. On sera avec Noé Vino-Kahn. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
De la semaine, c'est Eric Albert. Bonjour, fondateur et dirigeant de YouSide, psychiatre spécialiste de l'anxiété, coach et consultant en entreprise. Je vous ai fait venir, Eric, pour parler recrutement. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour aider la tonne de DRH que je reçois ici et qui ne savent plus quoi faire pour attirer? Au début, j'avais juste ceux de la tech, puis après, j'ai eu quelques secteurs de la restauration, et puis après, j'ai eu la santé, et maintenant, je reçois des gens désespérés. Des gens qui commencent à se dire, il va falloir baisser la production parce que je n'arrive pas à recruter. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, je pense qu'il faut distinguer d'abord les cas. Il y a d'un côté tous les jobs frontline qui sont apparus au moment du Covid, dont on a vu qu'ils étaient beaucoup plus durs, beaucoup plus mal payés, sans aucune perspective, et qui permettaient pas aux gens de se développer. Donc, c'est des jobs de survie. Et donc, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Moi, si je peux survivre en faisant des trucs à côté, je préfère 10 fois ça à survivre avec ce que vous me proposez. Faut juste, là c'est très simple, offrir à ces gens-là autre chose que de la survie. De la perspective, de la capacité d'évolution, des jobs un peu mieux payés, de montrer que le sens que ça a, de la reconnaissance.
C'est-à-dire sortir de la tâche.
Et sortir de, et puis surtout donner de la perspective, c'est mettre des humains derrière et leur montrer que effectivement si ils sont femmes de chambre dans un hôtel, c'est pas toute leur vie, c'est pas pour être les plus mal payés du monde et les très mal reconnus. Peut-être que derrière il y a quelque chose qui peut se passer, on peut les reconnaître, on peut leur donner une perspective, on peut y mettre du sens, on peut les faire travailler, leur demander leurs idées pour faire des choses plus intelligentes ensemble.
Enfin, si les manager jobs, quoi.
Exactement, manager. Ouais. Il faut commencer par. Donc ça, ces gens-là, c'est toute cette frontline, et donc c'est dans tous les secteurs que vous citez, la santé, l'hôtellerie, la restauration, tous les secteurs dans lesquels le retail, de façon générale, tous ces secteurs dans lesquels on a pris l'habitude d'avoir des gens qu'on traitait extrêmement mal, et on leur disait, vous avez de la chance, vous survivez.
On n'a jamais eu un problème de demande, quoi. Donc en fait, on ne l'a jamais traité, on s'est dit de toute façon, il y a de la
main-d'œuvre. Et là, les gens ont dit, non. Ce qu'on a appelé les bullshit jobs. Les gens disent, non. Moi, ce truc-là, je peux survivre autrement, donc comptez pas sur moi.
Donc là, on est sur un problème de management de base, sauf que j'ai aussi, par exemple, Irène Grenet, qui est l'ancienne dirigeante de la régie publicitaire de France Télévisions, qui dit, dans la pub, là où c'est pas des jobs frontline, plus personne ne veut venir non plus.
C'est la deuxième catégorie. Là, c'est des hyper-experts, super bons, qui ont, pareil, dans cette période qui vient de se passer, dans ces deux dernières années, sont aperçus qu'ils pouvaient très bien utiliser leur expertise et bien gagner avec leur vie avec leur expertise sans avoir besoin de s'engager dans l'entreprise. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de venir, j'ai pas besoin d'être copain avec mes collègues, j'ai pas besoin.
Mon expertise suffit.
J'ai pas besoin de faire. Moi, je suis hyper expert, laissez-moi faire. Alors, il y a tous les codeurs, il y a toute la tech est là-dedans. Enfin, toutes. Non, c'est très intéressant, c'est sûrement pas toutes. Toute une partie de ces gens-là qui disent, moi je veux bien travailler, et d'ailleurs je veux travailler, mais d'ailleurs est-ce que je suis pas mieux en indépendant? Parce que comme
j'ai
ça, j'ai plusieurs clients, je prends pas,
et pas de chef.
Voilà. Et comme je suis très bon dans ce que je fais, je le valorise bien et je ne veux surtout pas m'intégrer. Le modèle de l'intégration m'intéresse pas. Et à nouveau, sujet de management, comment est-ce que ces gens-là, on leur donne envie? Comment est-ce qu'on leur donne envie de rejoindre une entreprise, de rentrer dans une aventure collective, de faire jouer, de participer à l'intelligence collective, d'être dans des processus de créativité commun, d'avoir des opportunités différentes?
Mais c'est leur expliquer différentes. Juste quelle entreprise, en fait. Quel est l'intérêt?
Ben oui, enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui montrent pas tout ça. Il y a beaucoup d'entreprises pour lesquelles c'était une évidence. Je te paye, tu viens. C'est très nouveau, le fait que venir nécessite un désir. Avant, c'était une obligation. C'est là où Elon Musk se trompe complètement quand il dit chez moi, vous venez 39 heures par semaine et après vous faites du télétravail si vous voulez. Ben, il oublie que si je ne suscite pas le désir, il y a un certain nombre de gens qui diront, ben non, moi j'ai pas envie. Donc, et le désir, il ne se décrète pas. Donc, il faut.
Que... Alors, il faut faire des plans désir. C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise se dise voilà, qu'est-ce que j'ai de désirable.
Alors ça, c'est sûr. C'est toujours la même chose. Hein. C'est trois dimensions. La dimension inspirationnelle. En quoi est-ce que ce que je fais me rend fier et me transporte d'une certaine façon. La dimension opérationnelle quotidienne, c'est en quoi est-ce que les objectifs que j'ai les moyens, j'ai les soutiens, j'ai le mode de management, j'ai une espèce de cohérence dans ma vie quotidienne. Et puis la dernière dimension, c'est la dimension émotionnelle, c'est comment est-ce que ce que je vis est me provoque une émotion positive. Et est-ce que quand je rentre le soir chez moi, je me dis ah vraiment j'aurais loupé quelque chose si j'étais pas venu?
Ou j'ai perdu mon temps à y aller.
Ou est-ce que je me dis, mais putain, mais je suis trop con, j'aurais dû rester chez moi. Et là, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas de laisser faire venir les gens simplement. Il faut que, quand ils viennent, il se passe quelque chose. On les sollicite dans un jeu relationnel, dans une capacité à participer à quelque chose, qu'ils se sentent intégrés à une dimension différente.
Mais du coup, est-ce qu'il faut revenir à ce qu'on appelait le chief happiness officer? Finalement, c'est lui qui avait raison, c'est lui qui va susciter le désir, ou on doit juste s'appuyer sur des managers qui ne savent pas faire, Eric?
Oui, mais il faut aider les managers à savoir faire. Ça, c'est sûr qu'il faut... Non, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on a basculé dans un complètement nouveau mode de management. Donc, quand les gens viennent, il doit se passer quelque chose. Et le manager, il a un côté géo du Club Med.
Mais donc c'est ça, il fait une fête tous les jours. Et puis lundi, c'est barbecue, mardi, c'est réunion.
C'est pas une fête tous les jours, mais c'est je laisse pas la personne dans son coin travailler en Teams. Je la sollicite, je la fais participer à quelque chose, je veille à ce qu'elle le temps collectif, l'informel, la relation, je lui demande de contribuer à développer les autres. C'est-à-dire que il y a toute une série de choses qui ne sont pas du tout dans le contrat de travail, qui sont absolument centrales dans notre vie quotidienne, parce qu'à la fin. À la fin, pourquoi est-ce que il faut donner envie? Parce que c'est ça qui va provoquer du plaisir, parce que le vrai plaisir, il est dans la relation. Il n'est pas dans le fait de produire. Il est dans le fait d'être en relation avec les autres et de ce que me renvoie ce que je produis dans mon environnement, dans mon écosystème. Donc, il faut absolument qu'on arrive à développer ça. Et vous avez raison, les managers sont pas... Je remarque que les chief happiness officers, il n'y en a plus.
Non, c'est vrai, il n'y en a plus du tout. Ouais, le Covid l'a tué.
Il y a eu une espèce de mode, mais parce que ça n'a aucun sens. Le vrai sujet, c'est comment les managers comprennent que leur valeur ajoutée est différente et qu'ils doivent créer un collectif. Et ce n'est pas seulement, d'ailleurs, vertical, c'est aussi horizontal. Comment moi, avec mes collègues, je fais en sorte que mes collègues aient envie de venir et qu'on ait envie de se retrouver et qu'on crée une communauté. Donc c'est vraiment une espèce de co-responsabilité de tout le monde dans le fait que on vit quelque chose qui nous donne envie collectivement avec ces trois dimensions, inspirationnelle, opérationnelle et émotionnelle.
Dans ce plan désir, qu'est-ce qu'on fait de la raison d'être? Parce que c'est un peu comme le Chief Happiness Officer. Toutes les entreprises, un peu avant le Covid, faisaient leur raison d'être. Voilà à quoi je sers, voilà ce que c'est. Est-ce qu'on continue à faire la démonstration de l'utilité de l'entreprise? Ou est-ce que finalement, c'est fait et que ça ne sert à rien d'essayer de travailler dessus?
Alors, la raison d'être, ça rentre dans l'inspirationnel, c'est vraiment une dimension qui inspire et ça existe. Si c'est pas une espèce de raison d'être washing, ça existe. Si on ramène ça au quotidien des gens et on montre que la raison d'être nourrit la façon dont on prend les décisions. Si je montre pas, mais très régulièrement, et là c'est vraiment le rôle des dirigeants et du COMEX, que ma stratégie est en lien avec ma raison d'être. Les décisions que je prends sont en lien avec ma raison d'être. Que là, je fais quelque chose qui n'est pas complètement dans l'intérêt financier de l'entreprise, mais c'est dans ma raison d'être. Eh bien, évidemment, c'est du washing. J'ai fait une belle phrase et tout le monde sait bien que on s'en fout et qu'à la fin des fins, il faut cracher du dividende. Donc, c'est la raison d'être, c'est très important en inspirationnel. C'est comme les valeurs. Ça n'existe que si je les ramène dans le quotidien des gens et que régulièrement, je les mets en perspective. Je mets en perspective que ce qu'on fait est en lien avec la raison d'être.
Qu'est-ce que je fais du coup de mes dirigeants qui n'arrivent pas à suivre ?
Je les développe. Je
les change ?
Non, alors...
Non, mais j'échange intérieurement, je veux dire, vous pourriez les changer aussi.
Non, mais il y a...
Jean-Pierre est le remplacé par Jean-Paul, mais comment je fais eux-mêmes pour leur mettre le plan désir à l'intérieur ?
Ben, c'est toujours pareil, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de changer, chacun d'entre nous, vous et moi ? D'abord, il faut en être convaincu. Donc, il faut bien leur montrer pourquoi est-ce que si on ne fait pas ça, on ne sera pas efficace. À la fin des fins, dans l'entreprise, le sujet, c'est d'être efficace. Hein. Donc, en être convaincu. Ensuite, leur donner un peu de méthode sur quoi est-ce qu'ils ont besoin de changer individuellement, comment les développer, leur permettre un peu d'avoir un peu plus de compétences. Et puis, la dernière dimension, c'est de la pression. Il faut que je sois convaincu que j'ai un peu de méthode, mais aussi me mettre un peu de pression. Si j'ai pas de pression, je peux être convaincu de quelque chose, savoir comment faire et pas le faire, parce que j'ai pas de pression.
Ça veut dire qu'il faut des objectifs non financiers dans les contrats.
Ah, mais ça, c'est sûr. Ça. Si on avait que des objectifs.
Mais des clauses de désir, des clauses d'empathie, des clauses
mais,
de.
Mais il y a plein de choses très, très, très simples. Hein. Par exemple, on dit, un des trucs qu'on voit dans toutes les entreprises en ce moment, c'est qu'on dit qu'il faut que les gens prennent des initiatives. Bon. Comment vous mesurez qu'un manager a des collaborateurs qui prennent des initiatives ? Ben, c'est assez simple. Il faut mesurer le nombre d'erreurs commises. S'ils n'ont pas fait de conneries.
C'est qu'il n'y a pas d'initiative.
Donc, il faut à chaque fois se dire, si on dit quelque chose, alors le manager va vous dire, ah, mais je leur ai dit de prendre des initiatives. Non, ça compte pas, ça. Peut-être que tu l'as dit. La question, c'est est-ce qu'ils en ont prise ? Et quel est l'indicateur qui permet de voir s'ils en ont prise ? C'est qu'il y a des erreurs.
Changer les indicateurs de l'entreprise. Hein. Ah, compter le nombre d'erreurs, alors là.
Ah, ça, c'est évident.
Merci beaucoup, Eric Albert, d'être venu nous voir. On va parler d'un pan dont on n'a pas parlé ensemble, c'est le bureau, l'organisation du bureau. Comment on fait, là aussi, pour mettre en place un plan désir.
Pour donner envie.
C'est notre sujet.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, Better Together.
Et donc on va parler ensemble de l'aménagement des bureaux. Seuls 21% des Français sont motivés pour aller au bureau. C'est un chiffre qui date du mois de mai. Mickaël Locaux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général France de Steelcase. Steelcase, c'est son travail d'aménager les bureaux. Comment ça se fait qu'on est encore à ce chiffre de 21% seulement des Français qui ont envie d'aller au bureau ? Ça ne revient pas, on n'a pas toujours pas envie d'y retourner.
Alors oui, alors ça tient à plusieurs choses, hein, mais c'est on parlait d'envie de revenir au travail tous les matins, tous les Français, tout le monde, partout a le choix entre est-ce que je reste chez moi ou est-ce que je vais au bureau. Et beaucoup choisissent aujourd'hui encore de rester au bureau. Si je devais prendre une analogie, par exemple, certains collaborateurs se retrouvent au bureau et c'est comme si vous alliez à un concert au Stade de France et vous avez 3 personnes. Voilà, l'ambiance n'est pas pareille.
C'est clair. Vous allez au bureau pour voir personne. En fait, il y a aussi autant de gens que chez vous.
Donc
ça ne sert à rien. Ah. Et le bureau, il n'a pas changé. C'est-à-dire qu'au pire, il est plus petit, parce qu'on a en gros sous-loué des parties parce que c'était trop grand. Mais peu d'entreprises se sont mis à mettre en place un vrai plan de réaménagement et de reconquête de leur territoire.
Alors, peu d'entreprises, oui, pas encore mises en œuvre. Certaines ont commencé, mais il y a beaucoup de réflexions. Là, pour le coup, beaucoup d'entreprises réfléchissent.
Alors, elles réfléchissent à quoi ?
Elles réfléchissent à quoi mettre en œuvre pour que l'espace, justement, devienne un vrai levier d'attractivité, parce que c'est un enjeu très fort.
Donc, moi, je vois des grands groupes qui ont des sièges tout neufs, avec des montants stratosphériques investis dans les sièges qui sont des vitrines importantes. Mais dans les entreprises plus petites, celles qui n'ont pas justement des budgets réaménagement colossaux, vous dites quoi ? On peut faire quelque chose sans casser l'ensemble des murs ?
Bien sûr, et on doit faire quelque chose, parce que je pense que ce n'est pas l'apanage des grands groupes, c'est aussi celle des PME. Et on doit réfléchir à comment est-ce qu'on doit modifier cet espace-là. Il y a des choses très simples et très concrètes. Et surtout le pourquoi. Alors déjà, le pourquoi, c'est il faut que ça soit mieux qu'à la maison. Sinon, le collaborateur, il reste. Et le mieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut déjà qu'il y ait peut-être un peu plus de confort. Le confort, ça se traduit par des choses très concrètes. C'est-à-dire que à la maison, on est parfois mal équipé. Donc c'est peut-être être sûr que le siège que vous offrez au bureau soit meilleur que le siège que vous offrez à la maison. Même en termes d'ergonomie, par exemple, des vrais écrans pour supporter le travail au quotidien pour les personnes qui sont sédentaires. Mais c'est aussi, vous parliez beaucoup d'attirer les gens au bureau, c'est recréer ce lien social. Et donc peut-être c'est de se dire comment est-ce qu'on va faire que finalement quand vous arrivez au bureau, ce soit pas un stade creux ou un restaurant complètement vide. Donc pour ça, il y a des choses, c'est redéfinir quelle est la place du village au sein du bureau et vraiment en définir une et faire en sorte que celle-là soit définie, que les gens puissent y travailler, qu'il y ait un mélange et que dans cette zone, on puisse à la fois se rencontrer, travailler. Voilà. Et pour attirer les gens dans cette zone-là, il y a plusieurs astuces. Hein. Il y en a qui...
Il faut que toutes les entreprises aient leur place du village. Parce que moi, ce que je vois, c'est quand même des boîtes qui disent « revenez au bureau » et puis quand les gens mangent dans l'entrée, on leur dit « ah non, ça va pas être possible parce que ça fait pas bien
voilà. ». Alors, c'est pour ça qu'il y a deux changements. Il y a un changement qui coûte pas cher, ça s'appelle un changement, mais qui est un peu plus compliqué, c'est un changement de culture. Donc là, il faut autoriser la personne à justement prendre son café et avoir son ordinateur à côté de lui. Donc ça, c'est les choses qui peuvent se faire et qui peuvent se décréter. Il faut aussi, et là pour certains managers, alors autant souvent l'aspiration de la direction générale est souvent dans cette direction-là, mais après, c'est aussi un changement de culture, un changement managérial, accepter que ces équipes soient pas autour de soi pour pouvoir contrôler ce qu'elles font, mais qu'elles puissent être tout aussi productives en étant assis dans un mode lounge, par exemple, ou dans un mode allongé au café à discuter avec un autre collègue. C'est pas pour autant
qu'elles ne travaillent pas. Accepter qu'un client peut venir dans une entreprise et voir un café, un sandwich. Vous voyez, parce que l'entreprise, c'est aussi une vitrine. Ça peut pas être n'importe quoi. On peut pas.
Mais l'entreprise, c'est, et vous l'avez dit, c'est la vitrine, mais c'est le seul lieu où le collaborateur il peut toucher en fait la culture de l'entreprise. Donc si vous vous dites que l'endroit où j'amène mon client, c'est pas, je veux pas lui montrer mes lieux de travail, c'est-à-dire qu'il y a un problème entre votre culture, votre espace de travail, donc c'est quelque chose qui va pas. Donc
finalement, mais faussement cool.
Non, c'est pas faussement cool. Vous pouvez être réellement cool, mais il faut juste que ça soit en ligne avec ce que vous voulez être.
Concrètement, quand vous faites les aménagements, vous, parce qu'à un moment donné, il faut faire un plan et s'organiser, du coup, pour la place du village, vous dites quoi? Vous dites c'est une vraie place, il faut pousser un peu les bureaux et créer un espace commun. Enfin, j'ai vu des incubateurs de start-up qui avaient des places du village avec des arbres, des faux, en plastique. Qu'est-ce que vous dites, vous?
Là, c'est une métaphore. Ce qu'on dit, c'est...
Non, surtout... j'en vois des vrais. Hein. Ouais, des vraies organisations de places.
Hein. Non, mais tout à fait. Et ça peut... En tout cas, il faut que ça soit un point central et qui connecte en fait les différents lieux dans l'espace. Et que ce lieu, il serve à la fois... pour socialiser, mais aussi potentiellement pour se concentrer. Donc, c'est un lieu où vous pouvez potentiellement avoir une boîte où vous passez un petit coup de téléphone rapidement. C'est un lieu où vous avez le côté un peu assis debout. Vous pouvez travailler debout, vous pouvez travailler assis ou voir en mode lounge. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ça soit un hub de connexion. Donc, c'est-à-dire que c'est le lieu qui va desservir d'autres endroits pour pouvoir mieux travailler. C'est-à-dire peut-être une rue, enfin, on parlait
village.
De village, voilà. La rue de la soif, par exemple, et ben, en fait, vous avez la rue de la concentration. Et vous avez un endroit où les gens peuvent aller se concentrer. Vous passez par cette place du village et vous allez vers la rue de la soif ou de la collaboration. Vous avez la rue de la concentration. Et il faut vraiment que ces espaces soient dédiés. Donc, ça change un peu. C'est-à-dire que vous n'avez pas un lieu où vous venez travailler, vous êtes assis tout le temps, mais vous avez plusieurs lieux qui vous offrent, on va dire, un meilleur support que ce que vous avez à la maison. Parce qu'à la maison, finalement, vous avez, globalement, je schématise, mais une table, une chaise, et vous faites la même chose, peu importe ce que vous avez à faire tout au long de la journée.
Ce qui veut dire que quand vous réfléchissez à l'organisation de bureau, il faut vous disiez, j'ai besoin d'un espace de concentration, j'ai besoin d'un espace pour discuter, j'ai besoin de ça. Pourtant, quand on faisait ces réflexions-là avant le Covid, et qu'on faisait les salles silence et machin, etc., ça marchait pas.
Ouais. Alors, c'est pas que ça marchait pas, mais que c'était pas accompagné. Donc, il faut avoir cette réflexion-là, il faut le mettre en place. Et je pense que c'est le moyen de redonner un peu plus de concentration et de vie au lieu. Parce que s'il n'y a pas de vie, les gens, ils ne reviendront pas. Mais c'est, et je pense que c'est d'autant plus utile pour que les gens, ils se disent le matin, au moins... Avant, quand je suis obligé de travailler de chez moi, là j'ai ma salle silence, alors que parfois les gens n'avaient pas la possibilité de se concentrer chez eux, ou n'avaient pas la possibilité d'avoir la bonne technologie ou le bon outil pour faire leur brainstorming ou leur méthode de collaboration ensemble. Voilà.
Repenser les lieux en fonction des usages. J'ai l'impression qu'on répète ça depuis un petit moment, mais ça fait du bien de se le redire.
Voilà. Il y a une vraie accélération sur ces sujets-là, et voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire, et on n'est qu'au début.
ça fait du business. Merci beaucoup, Mickaël Loco, d'être venu nous voir DG France de Steelcase. On va parler de mobilité pour tout le monde.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
La mobilité, c'est un sujet pour l'ensemble des salariés. On va parler aux salariés qui sont en situation de handicap. On est avec Noé Vinokan. Bonjour, vous êtes CEO et cofondateur d'Omni. Omni, c'est une vieille start-up créée en 2018. Vous êtes à la station F et vous avez créé une sorte de trottinette électrique qui se plug sur un fauteuil roulant, si j'ai bien compris.
Exactement.
C'est aussi simple que ça.
C'est aussi simple que ça. C'est une petite fixation mécanique qui se met sur le plateau de la trottinette, donc là où on met nos pieds, et qui permet à quelqu'un en fauteuil roulant de fixer son fauteuil sur la trottinette électrique. Il a les mains sur le volant et il peut faire 20 à 60 km en autonomie.
Moi, je vois beaucoup d'entreprises qui commencent à réfléchir à des cartes mobilité comme des cartes tickets resto, qui réfléchissent à des flottes de vélos électriques. Vous vous dites quoi ? On oublie une partie des salariés ? Nous, on a la solution ?
Exactement. Paradoxalement, jusqu'ici, toutes les aides à la mobilité étaient dédiées au vélo électrique. Et donc, les personnes qui en ont peut-être le plus besoin, les personnes à mobilité réduite, étaient exclues de ces possibilités, de ces aides. Grâce au forfait mobilité durable, aujourd'hui, les trottinettes électriques sont incluses. Et l'omnitrotteur, donc le produit, la fixation qu'on a développée, est aussi inclus et permet maintenant à un employeur très facilement d'embaucher des personnes en fauteuil roulant et de faciliter leur quotidien en entreprise et leur inclusion.
Donc, vous, vous proposez aux entreprises de leur fournir le matériel, de faire quoi ? De faire un leasing comme on fait parfois dans les flottes de véhicules de fonction ?
En fait, on propose le matériel soit à l'achat, soit en location, effectivement, en leasing, comme un véhicule de fonction. Et on annonce aujourd'hui un partenariat avec Betterway qui propose de faciliter l'accès au forfait mobilité durable, ce qui permet très facilement à l'employeur de mettre à disposition ce matériel. L'employé peut l'acheter, peut aller dans un magasin sur notre site internet ou dans un magasin pour acheter une trottinette électrique, un vélo, etc. Et donc là, en particulier, une trottinette électrique.
On finance bien le Pass Navigo, vous dites, c'est le même sujet.
Ça, c'est le forfait mobilité durable. Depuis début 2022, le forfait mobilité durable a inclus les trottinettes électriques. Et donc, par conséquent, pour la première fois, les personnes en fauteuil roulant ont accès à une aide qui était jusqu'ici destinée au grand public, ce qui leur permet très facilement d'avoir accès à au moins 50% de remboursement sur leur achat.
Là où avant, est-ce que ça coûte combien ?
Alors, au total, on est sur un pack qui est à partir de 1200 euros en moyenne, donc entre 1200 et 2000 euros pour la fixation plus la trottinette électrique, à comparer avec des motorisations jusqu'ici qui coûtaient en moyenne 5000 euros. Donc on est trois fois moins cher que les solutions qui existaient jusqu'ici et qui, au-delà de ça, étaient des solutions médicales spécialisées. Ce qui est important sur la solution qu'on propose, c'est aussi d'avoir accès à la même chose que tout le monde, d'avoir accès à une trottinette électrique. Et ça, pour les centaines de personnes qui l'utilisent. C'est ludique, c'est le même objet que tout le monde. Quand on se déplace dans la rue aujourd'hui en fauteuil roulant, et d'ailleurs, je vous invite à essayer de le faire un jour et à toute personne d'essayer de le faire.
Déjà, avec une poussette, c'est compliqué. Donc
voilà, exactement. Et donc, il y a tous les enjeux que vous avez dû voir avec une poussette, les pavés, les dévers sur les trottoirs, etc. Et en plus de ça, il y a le regard des autres. Et le regard des autres, ça veut dire que quand on se déplace en fauteuil roulant aujourd'hui, en permanence, on nous demande si on a besoin d'aide. Concrètement, on peut nous considérer un peu comme quelqu'un de malade. On voit beaucoup le fauteuil, on voit moins la personne qu'il y a derrière. Nous, notre but, c'est qu'on voit la personne. Et donc, quand on se déplace en trottinette électrique...
Vous voulez un effet waouh ? Enfin, un effet...
Exactement. On veut briser la glace. Et c'est ce qui se passe concrètement dans la rue pour les centaines de personnes qui utilisent des trottinettes électriques.
Mais c'est presque créer l'envie, en fait.
Exactement.
Se dire, cet objet-là, c'est cool.
Exactement. Je l'ai créé avec Charlotte Allo, qui est en fauteuil roulant depuis l'âge de 4 ans. Et elle, son plus grand bonheur, c'est que quand elle se déplace aujourd'hui en trottinette, ça fait plusieurs fois qu'on lui demande si on peut essayer son fauteuil roulant. Chose qu'on lui avait jamais demandé avant. Au contraire, le fauteuil roulant, c'est quelque chose qui était sacralisé. On peut penser que ça porte malheur de se mettre dans un fauteuil roulant, etc. Non, non, c'est juste un objet qui est utilisé pour se déplacer plus facilement. Et il y a une personne dedans qui l'utilise et il faut voir la personne.
Et alors, on l'utilise en intérieur, en extérieur ?
Surtout en extérieur, et c'est parfait pour les déplacements domicile-travail, puisqu'on a jusqu'à 60 km d'autonomie. Donc, en général, ça fait largement l'affaire.
Et pour la charge, je l'emmène chez moi, je charge
très facilement sur une prise secteur. Comme d'habitude, c'est une trottinette électrique classique sur laquelle on a mis une petite fixation pour l'utiliser en fauteuil roulant.
Eh bien, merci beaucoup Noé Vinokan d'être venu nous parler de tout ça. Vous avez cofondé Omni. Le produit s'appelle Omni ?
Omnitrotteur.
Omnitrotteur, c'est quand même plus simple. Merci beaucoup, c'est la fin d'Happy Boulot Le Mag. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business. Je vous souhaite un excellent week-end.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.